Europa Voice numéro 40 déjà, et surtout dernier épisode de l'année 2019. Comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
40 déjà ? Ça passe vite. Et puis surtout 2019 qui se termine, ça se passe vite exactement. On va faire un petit retour sur les grands moments de l'année 2019. On ne peut pas passer à travers le Brexit. Il s'est passé tellement de choses. Il y a un an, on avait un autre Premier ministre, on avait un autre gouvernement, on avait une autre perspective sur l'avenir du Brexit. On avait surtout une impasse dans laquelle l'État britannique était, une impasse dans laquelle le gouvernement essayait de sortir. Ils y sont finalement plus ou moins arrivés, mais pas du tout par le plus court chemin.
Non, Christophe, en fait, avec ce Brexit qui dure non pas depuis le début de l'année 2019, mais depuis 2016, on a eu plusieurs vies politiques en une année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé l'année 2019 avec une Theresa May, première ministre britannique, dont la confiance a été votée, qui a regagné en fait la confiance de son Parlement pour être encore quelques mois seulement, mais Premier ministre. Et on termine l'année 2019 avec finalement Boris Johnson qui remporte des élections, alors de manière beaucoup plus nette que la confiance donnée à Theresa May au début de l'année 2019, mais avec aussi un Premier ministre de nouveau réconforté dans sa position de Premier ministre.
Réconforté, mais pas forcément réconcilié avec la population britannique, parce qu'on peut aujourd'hui analyser ce vote pour le Brexit. C'est beaucoup un vote, on en a marre, on veut que ça se termine, et la meilleure solution pour se terminer, c'est aujourd'hui Boris Johnson. Est-ce qu'on peut analyser ça comme ça ?
On peut surtout analyser qu'en fait, quand Theresa May a effectivement été reconfirmée par une courte majorité Premier ministre britannique, elle n'a pas su trouver les clés, elle n'a pas su trouver la solution pour mettre en œuvre l'accord de Brexit. Donc en fait, Boris Johnson, ce que lui a promis, le « let's get Brexit done », maintenant que le « let's get breakfast done » a été fait, c'est de mettre en opération, de mettre en musique... pour le 30 janvier 2020, cet accord de Brexit. Donc, difficile de présager de ce qui va arriver. Et l'année 2019 a été un bon exemple par rapport à cette maxime et par rapport au Brexit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Boris Johnson ne devra pas refaire les mêmes erreurs que Theresa May par rapport à trouver une solution concrète, opérationnelle pour les Britanniques, pour sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne.
Est-ce qu'il ne met pas déjà un peu les bases, d'ailleurs, Boris Johnson et son gouvernement, tout de suite, ils sont sortis avec Michael Gove aussi, de dire que il n'y aura pas de renouveau de négociation, la sortie du Brexit, elle sera actée à telle date, et essayer de mettre une sorte de pression sur l'Europe, peut-être pour prévoir un Brexit dur. Est-ce qu'au fin fond d'eux-mêmes, est-ce qu'ils ne seraient pas quand même en train de chercher un Brexit dur ?
Je ne crois pas, Christophe. Je ne crois pas que l'idée de Boris Johnson, c'est de chercher un Brexit dur. Je crois que c'est vraiment... de mettre en œuvre ce Brexit. Parce qu'il faut le rappeler aussi, c'est pas simplement au niveau du Royaume-Uni lui-même que ça a bloqué de trouver cet accord de Brexit avec le Parlement, avec Westminster, avec le refus des solutions mises en œuvre pour le backstop, etc. Il y avait un blocage vraiment entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est ce qui a fait que Theresa May, d'ailleurs, est tombée à la fin. C'est qu'à chaque fois, il y avait un report de la date du Brexit. Elle l'obtenait de l'Europe, mais l'Europe ne comprenait pas pourquoi il y avait ce report, parce que le texte ne changeait pas. Donc l'Europe n'avait aucune raison d'accorder un report supplémentaire, puisqu'on le rappelle, il fallait que le texte change, qu'il y ait des changements substantiels, pour qu'on puisse accorder au Royaume-Uni un report supplémentaire. Maintenant que les planètes européennes ont l'air d'être alignées sur la mise en œuvre du Brexit, ce serait extrêmement risqué de la part de Boris Johnson de vouloir remodifier le consensus, le compromis entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour transformer ce Brexit ni hard ni soft en Brexit hard. Ça, c'est la première chose. C'est le rapport à l'Union européenne et le rapport au fait que l'Union européenne, maintenant, ait une position arrêtée. Le deuxième élément, et ça, on l'a vu avec le résultat des élections britanniques, c'est le poids insignifiant de Nigel Farage sur la scène locale et les négociations qui ont mené à ce qu'il ne présente aucun candidat dans les circonscriptions ou les
conseils. Est-ce qu'il est vraiment insignifiant ? Est-ce que peut-être la personnalité quand même de Nigel Farage fait qu'il a quand même influencé ce vote ?
Politiquement, il est insignifiant, Christophe. C'est ça que je veux dire. Évidemment, le contenu, le fond d'un Brexit dur, etc., il y a encore des germes dans la population britannique, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas dans le jeu des négociations,
On peut dire qu'il a été battu à son propre jeu par un Boris Johnson, globalement.
Oui, bien sûr, il avait plus d'espace politique dans lequel faire émerger ses idées. Et puis le fait que l'Union européenne, le Royaume-Uni va aussi sortir de l'Union européenne fait qu'il ne sera plus député européen. Donc toute la rhétorique sur casser la machine de l'intérieur, la faire imploser de l'intérieur, elle aura aussi plus de raison d'être une fois qu'il sera en dehors de l'Union européenne. Donc au niveau local, son impact, son poids a été maîtrisé. Au niveau européen, il va devenir insignifiant. Alors maintenant, on n'est pas à l'abri, voilà, de encore d'initiatives farfelues de sa part. Mais ce que je veux dire, c'est que la grande différence avec la Theresa May du début des années 2019, non pas dans le rapport à l'Union européenne, mais dans le jeu politique, c'est que Boris Johnson, il a une majorité beaucoup plus confortable que ne l'avait Theresa May quand elle a été réconfortée, quand elle a refait voter la confiance. Et c'est que Boris Johnson, il a aussi un champ libre beaucoup plus important, à la fois donc sur sa droite avec Nigel Farage, mais aussi sur sa gauche. Il faut bien le redire, hein, le Corbyn... le parti travailliste pardon, de Jeremy Corbyn est en questionnement là. Enfin, qu'est-ce que c'est le corbynisme, l'avenir du Labour en Grande-Bretagne? Donc Boris Johnson, il est dans une position même interne beaucoup plus confortable, et c'est pour ça, pour répondre et revenir à votre question, se risquer à renégocier quelque chose de beaucoup plus hard maintenant et un hard Brexit, là ce serait du culot politique, Christophe, mais ce serait vraiment jouer avec le feu, d'autant plus que ça grésille aussi du côté écossais.
Absolument, et ça c'est les grosses questions de 2020. On va y venir à la fin de ce podcast. 2019, année charnière pour la Grande-Bretagne, année charnière pour l'Europe entière. Nouvelle élection européenne, nouvelle commission européenne, et vraiment un air de changement à peu près partout dans l'Europe. En tout cas, c'est ce qui a été ressenti.
Oui, Christophe, hein, dans ce podcast d'Europa Voice, évidemment, on a été très au fait de ce qui animait l'Europe ces derniers mois. Évidemment, les élections européennes d'avril-mai dernier ont été extraordinaires dans l'image que ça a montré d'une Europe, j'allais dire, qu'on a voulu réenchanter. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, la participation au scrutin européen à l'heure où tout... que les participations à des scrutins sont généralement en baisse, où il y a une défiance vis-à-vis du politique, où les gens n'ont plus envie d'aller voter, où ils ne savent plus pourquoi ils vont voter, on a eu une augmentation de 8 points de participation à près de 50% par rapport aux dernières élections européennes de 2014, meilleur score depuis les élections européennes de 1994. C'est-à-dire que les citoyens européens sont allés voter et ont manifesté leur désir d'aller voter et d'avoir une représentation démocratique qui les représente au Parlement européen. Ça, c'est, pour moi, c'était un signal fort de cette année en Europe. Le deuxième signal fort, c'est aussi l'éclatement du schisme, de la bicéphalie gauche-droite en Europe et au Parlement européen. Alors, pour moi, il y a deux raisons. D'abord, c'est parce que ça représente beaucoup mieux les parlements nationaux. Hein, on va en reparler encore, hein, mais c'est aussi l'effet Macron. C'est-à-dire qu'un jeune président qui arrive sur la scène nationale, pas de nulle part, mais en tout cas sans parti quelques mois auparavant, et qui fait éclater le jeu de gauche et droite traditionnel, et bien au niveau européen, ça s'est aussi senti, hein, avec la formation Renew Europe, qui a attiré dans son panier quelques européophiles historiques, comme le parti de Verhofstadt, la LDE, et donc ça a permis aussi de rééquilibrer entre le PPE, le Parti Socialiste Européen, les Verts, qui continuent d'avoir une représentation et un poids signifiant en Europe, et ce parti de Renew Europe. Et très concrètement, en termes institutionnels, ce que ça veut dire aussi, c'est que maintenant, pour avoir une majorité au Parlement européen, il faut que trois partis s'allient. Et donc, ça va être intéressant de voir dans cette nouvelle mandature européenne comment, sur des questions très précises, il va y avoir ce jeu politique d'aller trouver des alliés, pas simplement un autre allié pour faire voter un texte quand on n'a pas de majorité absolue, mais deux autres alliés pour avoir une majorité absolue. Donc pour moi, il y a ce vrai changement, cet vrai engouement pour une Europe qui représente mieux les peuples, qui représentent mieux les démocraties européennes.
Et d'un autre côté, on a eu des peurs entre l'année 2018-2019, la montée de gens comme Orban, par exemple, les frontières qui se levaient, la crise migratoire, on avait l'impression que tout allait mal, et ça ne s'est pas vraiment tourné en quoi que ce soit sur l'année 2019. Orban n'a pas pris l'ampleur qu'on avait peur qu'il prenne. Ses décisions par rapport à mettre des barrières entre son pays et les autres, ça ne s'est pas vraiment développé ailleurs. Donc est-ce qu'on peut regarder en arrière et se dire, bon, on a échappé au pire, c'était quand même globalement une bonne année. On a un nouvel élan qui est plutôt dans le positivisme.
Oui, on a un nouvel élan positif. Alors, tout n'est pas rose, hein, en Europe, Christophe, comme vous le mentionniez il y a quelques instants. Alors, effectivement, il y a les partis d'extrême droite qui fleurissent quand même, qui bourgeonnent de ci et de là en Europe. Il y a le retour quand même historique d'un parti d'extrême droite au Bundestag allemand. Il y a cette crise migratoire.
Mais sur le fond du 30e anniversaire de la réunification allemande et sur le fait que le lit dans l'ancienne RDA est juste incroyable pour des partis d'extrême droite allemands.
Oui,
c'est là que la percée elle a été faite. Hein.
Oui, alors il y a toujours... j'allais dire, c'est plus une Europe... Avant, on parlait beaucoup d'une Europe à deux vitesses. La question, elle n'est pas de savoir si l'Europe elle est à deux vitesses. Elle est de savoir en combien d'années les pays de l'ex-bloc soviétique vont pouvoir s'aligner sur le développement des pays occidentaux en Europe. Et y a plein de signaux très encourageants. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre presque la question de manière inversée. C'est des pays comme la Pologne. Ils étaient toujours dans le bloc soviétique, s'ils étaient toujours dans une Europe de l'Est fermée, cloisonnée, où en seraient-ils aujourd'hui ? Vous voyez, si vous voulez, on peut voir le verre à moitié vide, de se dire effectivement, il y a toujours un décalage dans le salaire minimum, dans le niveau de vie des gens entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest européen. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que on est sur un trend positif, et est-ce que ces pays de l'Est, c'est rien à l'échelle politique 30 ans, Christophe, est-ce que ces pays de l'Est vont continuer à pouvoir rattraper et à faire en fait que l'Europe puisse approfondir ses politiques avec les membres qu'elle a déjà. C'est aussi ça la question. C'est d'accord, maintenant on est une Europe à 28-1, une Europe à 27. Est-ce qu'on va réussir vraiment cette question d'approfondissement entre tous ces membres pour avoir un bloc unitaire, un bloc non pas monolithique, mais une force politique une de Madrid à Varsovie, de Stockholm à Athènes. C'est ça la question de l'Europe. Et effectivement, il y a toujours ces signaux faibles. Et je reviens sur cette question de l'immigration. Oui, il y a toujours cette question de la gestion des flux migratoires qui atterrissent à Lampedusa, qui sont pour l'instant pris beaucoup trop en charge simplement par l'Italie, alors que c'est une question qui doit être gérée au niveau de l'Union européenne. Donc il y a encore du travail, mais j'allais dire ça va dans le bon sens.
D'accord. Est-ce qu'on peut aussi parler du renouveau de la France sur l'échelle européenne ? Est-ce que là aussi on a une nouvelle ère dans la façon dont la France fait la politique avec l'Europe, au sein de l'Europe, pour l'Europe ?
Oui, Christophe. Clairement, oui. Macron redistribue les cartes.
Malgré les petits accros au niveau de la nomination des représentants à la Commission, qui ont été un peu des faux pas.
La question de nomination, maintenant que Thierry Breton, puisque c'est de ça dont vous parlez, maintenant que Thierry Breton a été nommé commissaire, l'épisode précédent et le refus par le Parlement européen de la représentante française, en l'occurrence Sylvie Goulard, c'est du passé, si vous voulez. Effectivement, sur le moment, c'était quelque chose de difficilement compréhensible par les représentants européens. Mais voilà, c'est un petit accroc qui est vite oublié. Non, la vraie question, c'est de savoir comment Macron, dans un monde où vous avez d'un côté les aléas, la gestion du Brexit, vous avez l'élection de Trump, on est en pleine procédure d'impeachment à présent, vous avez la question du géant chinois, vous avez la question de la menace russe, ou en tout cas du partenariat qu'il faut nouer avec la Russie. Comment est-ce que Macron tire son épingle du jeu ? Un des éléments finalement de ça, on en revient toujours, c'est le couple franco-allemand. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'au début, Macron, il misait beaucoup, comme tous les présidents français, sur le couple franco-allemand. Un peu déçu par son allié Merkel, d'une certaine façon, mais qui a ses raisons, et c'est notamment la fin du règne Merkel en Allemagne. Donc voilà, c'est toujours ces périodes d'instabilité. Il a dû réorienter aussi un peu sa politique, et donc s'imposer peut-être lui-même seul comme leader d'un renouveau en Europe. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par des crises que vous provoquez, ou ça passe en tout cas par des déclarations fortes, je pense à celle de l'OTAN en état de mort cérébrale. Ça vous oblige quand même à réfléchir. Quand vous dites ça, alors si on n'est plus capable au sein de l'OTAN d'être force de proposition d'une défense européenne, ça va vouloir dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que c'est une armée européenne ? Est-ce que ça veut dire qu'on va justement, cette promesse de police, d'armée, de frontières européennes, est-ce qu'on va la mettre en œuvre non plus au sein de l'Alliance Atlantique, mais au sein de l'Union Européenne ? Ça veut dire quoi dans
enfin, un des freins, c'était encore une fois en boucle à la boucle, mais un des freins à cette armée européenne, c'était les Britanniques. Une fois parti, le frein est levé, ça peut ouvrir quand même énormément de portes à l'ouverture justement de collaboration au sein d'une création, enfin avec pour objectif de créer une armée européenne.
Oui, mais tout à fait, Christophe, mais si vous voulez, l'année 2019, elle a été quand même, même si on le disait, hein, de plus en plus, les dirigeants européens voulaient, Emmanuel Macron en premier, faire que le Brexit devienne un problème de plus en plus local, britannique et de moins en moins européen. Et je me rappelle, on en avait parlé dans les précédents podcasts d'Europa Voice, c'était à chaque fois le sujet numéro un des conseils européens. C'est-à-dire, ça ne devait pas être, mais évidemment, ça se rajoutait sur la liste. Et tout le monde ne parlait de ça parce qu'à ce moment-là, il y avait cette déclaration au Royaume-Uni, il y avait Westminster qui votait ça. Donc, ça s'imposait dans les débats, même si on aurait voulu les éviter. Mais ça a aussi permis justement à Emmanuel Macron de réorienter, de réaffiner sa politique et le rôle. Et encore une fois, je reviens à cette notion, le poids d'une Europe politique, de la construction européenne. Ce que ça va signifier en fait globalement, c'est est-ce que dans ce monde de plus en plus instable, l'Union européenne pourra trouver toute sa place pour être un facteur de stabilité entre le géant chinois, le géant américain, face à la menace russe. Alors, la menace russe, on en parle toujours comme si c'était quelque chose de frontal avec l'Europe, mais c'est aussi il y a aussi du positif dans ça. Il y a quelques jours de ça, Macron a réuni autour de la table ukrainiens et russes pour justement parler alors que ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Donc, vous voyez, c'est des fois, vous avez besoin aussi de mettre vos adversaires politiques ou même vos amis politiques devant leurs responsabilités, faire peut-être un peu de provocation, parce que c'est ça qui fait avancer les choses. Et je crois que c'est ça aussi que Emmanuel Macron a réussi à faire. Alors, après, tout n'a pas été parfait, et loin de là, le rôle de la France, en tout cas dans la représentation de la France à l'échelle européenne, mais en tout cas, ça a eu le mérite de faire avancer les choses et de faire qu'on va se poser d'autres questions. La question notamment de l'adhésion de nouveaux membres, la question de la procédure aussi, c'est-à-dire que est-ce que finalement des nouveaux membres peuvent rentrer dans l'Union européenne ou simplement dans les négociations si d'abord ils n'ont pas rempli un cahier des charges. On se rappelle, il y a eu aussi une simplification de ce cahier des charges. Avant, il y avait tout un tas de critères à remplir. Maintenant, ça va être des paliers, si vous voulez. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir plus loin si le palier 1, pour entamer les négociations, la case n'est pas tickée. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Encore une fois, il y aura des aléas, mais en tout cas, ça a permis, cette année de crise par rapport au Brexit, cette année de renouveau de l'engouement européen avec les élections dont on parlait, avec cette nouvelle commission, avec une femme d'expérience sur cela, von der Leyen, à la tête de la Commission, ça a permis aussi à la France de se repositionner un peu en dehors du couple franco-allemand. Donc forcément, vous avez plus 50% de la lumière, vous n'en avez pas 100, mais vous tendez vers avoir plus de 100% de la lumière sur vous.
Absolument. Allez, on va parler de l'avenir 2020, nouvelle année, nouvelle décennie. Est-ce que ce sera encore une fois une nouvelle ère ? Vers quoi on se dirige ? Quelles sont les clés de l'année 2020, si on peut faire quelques prédictions comme ça aujourd'hui, à la fin décembre 2019 ?
Alors, pour parler d'Europe, moi je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qui va se passer sur le territoire européen et ce qui va se passer en dehors du territoire européen. Sur le territoire européen, pour moi, ça va être vraiment... On en revient toujours à cette notion de période de grâce, hein, des 100 jours après l'installation d'une commission, après une élection. Ça va être quoi les grandes mesures ? Ça va être quoi les premiers jours en 2020, les premiers mois en 2020, les premiers faits de la commission von der Leyen et du Parlement européen ? Parce qu'on se rappelle aussi, hein, l'installation de la commission a été retardée. On devait être le 1er novembre, ça a été fait le 1er décembre. Donc, qu'est-ce qui concrètement va advenir de cette... nouvelle commission européenne, une fois d'ailleurs qu'on aura réglé ou qu'on aura mis de côté un petit peu la question du Brexit. Ça, pour moi, ça va être très important parce que ça va aussi nous montrer où sont les priorités. Et l'a dit Ursula von der Leyen, hein, ça va être toutes ces questions de transition écologique, de fracture écologique, etc. Donc pour moi, ça c'est au niveau, dans l'Europe, ça va être un premier marqueur important pour savoir ce qu'on pourra espérer des prochaines années en Europe. En dehors de l'Europe, moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, Christophe, je pense, dans ce podcast, c'est de voir la coopération européenne en œuvre sur des terrains opérationnels hors d'Europe. Très concrètement, on l'avait évoqué déjà dans un précédent podcast, par exemple au Sahel. Est-ce que ça va être encore des troupes françaises ? Est-ce que ça va être une force plus européenne ? La question de la gestion du terrorisme, hein, on en parle peut-être un peu moins, mais les poches terroristes et Daesh n'est pas encore éradiqué. Donc, ça va être quoi la solution ? Ça va être quoi la proposition européenne ? La gestion aussi par rapport à des géants autres. Je pense notamment à à Huawei, le chinois, de voir comment toutes ces questions de cybersécurité...
Voir même Google et Facebook, hein, ces géants-là, au niveau des taxes, la question est toujours posée. Gros point d'interrogation sur le comportement.
Et exactement, Christophe. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'équivalent du fisc australien vient de demander des sommes astronomiques aux géants du net, justement, qui avaient aussi échappé à certains contrôles ici en Océanie. Mais donc, vous voyez, pour moi, ça va être ça, c'est... Quel projet politique va être capable de porter l'Europe aussi en dehors de ses frontières et par rapport à des entités extérieures hors Europe où il n'y a pas cette question de savoir si c'est des acteurs qui voudront ou pas rentrer dans l'Europe. Vous voyez, j'essaie vraiment de différencier ce qui va concerner l'Europe, ses États membres et sa gestion interne, et ce qui va concerner la relation de l'Union européenne par rapport aux autres puissances en fait mondiales, et en réaction aussi à ce qui va se passer si demain l'impeachment, ce qui a quand même peu de chances d'arriver, mais nous mène à la destitution du président américain, l'Union européenne aura aussi toute sa place pour construire une nouvelle relation. Donc pour moi, ça va être ça vraiment qui va être décisif, la construction européenne en tant que telle, le projet européen et les premiers jours de la commission von der Leyen, et sur des terrains opérationnel ou même des terrains en ligne ou d'autres terrains, comment l'Union européenne en tant que force politique va être capable de s'organiser dans ce monde de plus en plus challengeant.
Et voilà, affaire à suivre pour l'année 2020.
Affaire à suivre en 2020, Christophe.
Absolument, merci Nathanaël, merci pour tout cette année.
Merci Christophe.